quand il passe derrière moi, derrière la caisse, ou quand je fais la plonge, la vaisselle, et il vient, il se frotte à moi, son sexe contre moi. Alors, j'ai essayé de l'éviter pendant tout ce temps. Je me faisais toute petite à pas le voir et pour pas avoir affaire à lui. Je voulais en finir avec toute cette souffrance.
Le chiffre est édifiant. Une femme sur cinq est victime de harcèlement, de violences sexuelles sur son lieu de travail. La libération de la parole depuis le mouvement MeToo, lancé il y a 3 ans, n'épargne pas l'entreprise. Il y a eu la restauration, les start-up, les jeux vidéo, la publicité, les grandes écoles. Rien que pour ces derniers mois, et l'énumération ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Si des femmes parlent, beaucoup se testent encore. 70% des victimes n'en parlent pas à leur supérieur hiérarchique. Dans son élan ininterrompu, la vague MeToo a apporté cependant quelques progrès. La responsabilité de l'employeur est engagée plus que jamais. Depuis 2 ans, la loi impose un référent par entreprise de plus de 250 salariés, mais la loi ne peut pas tout.
Le droit n'est pas un levier suffisant en fait. Il ne pourra pas être appliqué si on n'arrive pas à faire réfléchir les gens sur le fait que c'est pas parce qu'on le fait depuis toujours que c'est normal.
La société a beau évoluer sur ces questions, les fondamentaux restent bien solides. Le fameux « on ne peut plus rien dire » reste avancé comme un argument pour ceux qui assistent à cette révolution sans en comprendre les enjeux ni même les dangers, car parler est encore une épreuve.
Dès qu'on commence à vouloir obtenir des droits, dénoncer certaines choses, ben on est directement mis sur le carreau et on essaye de nous faire taire, on nous met la pression et je suis vraiment déçue de ça.
Ce reportage débute dans le secteur de la publicité, secoué par 2 répliques. La première, c'était il y a 1 an et demi, et la seconde, en septembre dernier. MeToo au boulot, quand les victimes sortent du silence, c'est le reportage de Claire Chaudière.
Interception.
Madame, monsieur, dans quelques instants, notre TGV Inouï entrera en gare du Creusot TGV.
Le magazine de la rédaction.
Alors, il y a un petit ruisseau là en contrebas, juste à côté de moi, encore quelques tas de neige sur le bord de la route. Je suis à Saint-Sernin-du-Bois, à quelques dizaines de kilomètres du Creusot, en Bourgogne. Et je vais voir une jeune femme qui a décidé de témoigner à visage découvert après la vague de témoignages anonymes sur les réseaux sociaux dans le secteur de la communication. Elle s'appelle Audrey Petit. Elle témoigne concernant des faits de harcèlement sexuel qui sont aujourd'hui prescrits, qui ont eu lieu il y a quelques années.
Bienvenue. Merci. Vous êtes en train de nous faire belle comme une espèce de fausse coquetterie, je sais pas pourquoi. Bah, je vous ai pas entendu. Vous allez bien ?
Oui, très bien.
Surtout qu'il n'y a pas de caméra. Hein.
Bah oui, non, mais c'était plus pour le fait de recevoir quelqu'un. Mais... Donc, vous avez tout d'un point de vue son, vous aurez le son du ruisseau si jamais.
Mais je me demande si on va pas aller se balader, si ça vous embête pas.
Ah, mais non.
On va faire une petite balade.
Ah, mais grave. Bah ouais, avec plaisir pour vous montrer le coin du coup. Alors. Ouais, je vais vous accompagner, je vous emmène dans les birches comme on dit dans le coin. On va très vite arriver avec des champs, quoi. Très vite arriver sur les vaches.
Super.
Elles sont en bas.
Génial.
Allez. Donc, je m'appelle Audrey Petit, j'ai 35 ans. Ça fait à peu près 12 ans maintenant que je travaille en agence de communication. J'ai eu la chance de grimper assez vite les échelons, puisqu'aujourd'hui, je fais partie de la direction générale de mon entreprise. Ma volonté aujourd'hui, c'est de contribuer, on va dire, à des changements de mentalité, des changements de pratiques dans cette industrie, qui a en fait énormément de vertus, mais qui a aussi énormément de défauts, socialement parlant, parce que j'ai vécu des choses assez pénibles au début de ma carrière. C'est des faits qui sont anciens, parce que ça remonte à 2011-2012. L'effet pivot, ça a été vraiment le MeToo du cinéma. C'est là où j'ai réalisé ce qui s'est passé vraiment. C'est là où j'ai compris que c'était c'était systémique et qu'il fallait agir, quoi. Je pense que les gens, ils doivent se dire, mais que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe à Saint-Saint-Lin-du-Bois?
Un micro.
Mais c'est ça, un micro.
Donc expliquez-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé à l'époque?
Déjà, je suis arrivée dans une entreprise avec un grand patron qui était extrêmement charismatique, qui était qui est reconnu pour être brillantissime, qui a fait des bouquins, qui a fait beaucoup de choses pour notre industrie, etc. Donc c'était un peu un rêve. D'ailleurs, à l'époque, j'y vais à Toronto et je suis rentrée, j'ai écourté mon visa pour pouvoir intégrer cette agence. Et en fait, de l'intérieur, c'est toujours un peu différent. Je suis arrivée dans une très belle boîte, mais en même temps avec un climat assez particulier, puisqu'il y avait une espèce de cour en fait autour de cet homme-là. C'était vraiment Versailles. Cette cour qui était quasiment exclusivement féminine, puisqu'il déteste les hommes. Et c'est toute l'ambivalence de ce personnage. Tel un Pygmalion, il fait monter des femmes, il leur fait leur carrière au sens où il propulse les femmes. Et en même temps, c'est un harceleur, quoi. À dire constamment qu'il a envie de niquer, qu'il a envie de baiser, etc. À passer un jour sur deux à humilier son assistante, la virer, la faire pleurer, pour la faire revenir le lendemain, lui toucher les fesses. Et des regards sur les femmes, enfin, je veux dire, constamment. Il venait dans le bureau en parlant à ma boss, parce que c'est toujours un peu en public. De toute façon, il n'y a qu'une chose qui m'excite dans cette agence, c'est Audrey. Je me souviens par exemple qu'il me faisait travailler sur des notes, sur des espèces de faux cahiers des charges, pour ensuite me demander de regarder mes notes, mais pas de les regarder comme un boss, en m'agrippant comme ça, physiquement, pour me coller à lui, en mettant ses mains sur moi, et en parcourant la note. Donc en fait, moi, à ce moment-là, j'étais pétrifiée, je ne savais plus, enfin, je comprenais pas en fait ce qui se passait. C'est allé jusqu'à ce qu'il m'oblige en fait à partir tous les soirs avec lui en voiture. Et en fait, pour enlever toute ambiguïté à la situation, pour me protéger, parce que j'étais tout à coup enfermée dans un habitacle, dans un parking, etc. En fait, je lui faisais vivre une espèce de psychothérapie du haut de mes 25 ans. Et donc, je lui posais des questions très profondes, très cash, très personnelles, très psychanalytiques, parce que j'étais dans un mode de survie dans ces cas-là. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un geste à un moment donné extrêmement déplacé, puisqu'il est allé jusqu'à dégrafer mon soutien-gorge une fois, qu'on était dans l'ascenseur de Lina pour aller faire notre présentation, profitant de la promiscuité de l'ascenseur, il y avait plein de monde pour passer sa main dans mon dos, dégrafer mon soutien-gorge, etc. Donc c'était très dur et je me souviens du soulagement énorme quand il a quitté mon entreprise pour d'autres projets. Surtout que on m'avait dit à l'époque, mais prends sur toi, il va se lasser toutes les 3 semaines, de toute façon il a une nouvelle cible, une nouvelle target. Et c'est horrible parce qu'en fait on en vient à être pressé que ce soit quelqu'un d'autre. Et vous voyez ce que ça veut dire, le type de sentiment qu'on développe, quoi. J'avais hâte qu'il y ait une nouvelle victime. Enfin, c'est affreux de se dire ça, parce qu'en fait, j'étais tellement démunie, je savais pas à qui en parler. Il fait tellement peur. On me faisait faire le tour des locaux en me disant, bah, tu vois, un tel, elle a vachement morflé. De toute façon, il y a des lignes qui sont prévues dans le budget pour les procès pour lui. Enfin, puis c'était une grosse boîte. Enfin, en tout cas, dans notre industrie, c'était, il y avait beaucoup de monde et on se sent malgré tout très, très seul. Vraiment très seul.
À l'époque, est-ce que vous qualifiez ces faits de harcèlement sexuel ?
Pas du tout. Non, pas du tout. Je pense que je disais que j'étais en galère. Je disais ça. Je disais que j'étais en galère avec mon PDG, voilà. Bah, quand j'étais en plein dans ces fameuses galères, j'étais dans la peur et l'insécurité. Ensuite, beaucoup dans la colère. Et en fait, aujourd'hui, non, je suis plus dans un... J'ai envie d'agir, quoi. Voilà. J'ai pas peur. J'ai plus peur.
Et c'est un peu le sens de votre démarche ? De témoigner aujourd'hui, même si vous ne pouvez pas nommer votre agresseur.
Non, parce qu'il y aurait des risques de procès en diffamation, donc je ne vais pas m'amuser à ça. Comme je vous le disais, c'est un mouvement qui ne s'éteint pas et j'ai pas envie qu'il s'éteigne, quoi.
Bah jusqu'au pont, il fait demi-tour.
Ouais, ça marche.
C'est dire où je me trouve, puisque l'identité de la jeune femme que je vais rencontrer est totalement confidentielle. C'est d'ailleurs via une messagerie sécurisée qu'elle m'a donné rendez-vous. On va voir la personne qui se cache derrière le compte Instagram BTA comme Balance ton agency.
peux rentrer?
Oui, bien sûr, bien sûr. Vous n'avez pas peur des chats parce que j'ai deux énormes matous.
Alors, mon pseudonyme, c'est Julie Camille. J'ai souhaité, et je souhaite toujours d'ailleurs, rester anonyme.
C'est-à-dire que ce compte Instagram, vous allez me raconter comment vous l'avez créé, mais aujourd'hui, il a une activité incroyable.
Aujourd'hui, finalement, j'ai à peu près 200 à 300 messages par jour dessus.
Ce sont des témoins ou des victimes d'abus, de faits de harcèlement sexuel, parfois, dans le milieu de la publicité. Et vous, on peut dire que vous avez été un peu lanceuse d'alerte via ce compte Instagram.
Exactement, en fait, c'est le terme que je veux qu'on utilise. Et puis...
Encore un message.
Oui, encore un message. Alors... Là, donc elle me dit « Hello, je voulais balancer un cas d'agression sexuelle de la part de mon maître de stage de l'époque. » Et donc là, elle me raconte, donc c'est très dur à lire, hein, parce que c'est une vraie agression sexuelle. Elle était alcoolisée, elle a bu après le travail. Et puis voilà, il l'a emmenée chez elle. Et puis ensuite, il l'a embrassée sans prévenir. Et puis elle a repoussé donc cet homme en lui disant « Non, fais pas ça, je suis ta stagiaire. » Et puis lui a dit « Après le travail, il n'y a plus de stagiaire patron qui tienne. » Voilà. Quand j'ai un témoignage... terrible, je peux pas me contenter de dire merci, je partage. Je peux pas après retourner travailler dans la seconde alors que j'ai ça en tête, c'est un petit peu compliqué. Je peux vous montrer aussi, j'ai un tableau que je tiens sur mon ordinateur personnel, un tableau en fait où je classe les agences et en face les noms des personnes qui ont témoigné à propos de ces agences. Alors, là on peut voir les agences qui sont sur le côté gauche. Dans la colonne de gauche, et en face, en fait, on a les personnes qui ont parlé à propos de cette agence. Leur nom Instagram.
Il y en a énormément des agences. C'est hallucinant.
Elles y sont presque toutes. C'est un milieu qui peut peut-être ressembler un peu à la finance, dans le genre tout est permis, voilà, dérive, drogue, pour tenir un peu le coup. Parce qu'en fait, derrière, il y a quand même beaucoup d'argent. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont au pouvoir. Donc c'est un milieu qui était assez masculin, qui l'est moins aujourd'hui, mais en tout cas, qui a encore ses postes un peu haut placés, tenus par des hommes. C'est pour ça aussi que c'est un milieu qui était très masculin. Oups.
Simplement, on n'a pas expliqué qu'est-ce qui vous a poussé à un moment à créer ce compte. Vous avez fait une sorte de burn-out, en fait, qui vous a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses et donné envie de parler.
Oui, j'avais écumé des grands groupes, des plus petits groupes, des moyens groupes, le freelance. Et puis après, j'ai été embauchée du freelance dans une petite boîte d'une dizaine de personnes. Et là, en fait, il y avait une personne qui était très, très toxique. Et en fait, j'ai été témoin et victime cette fois. Et c'est après ça que je suis donc partie en burn-out. J'ai été épuisée physiquement, c'est-à-dire que j'étais dans l'incapacité de me rendre à l'agence, que j'étais paralysée. J'étais à l'hôpital. J'ai pas pu parler pendant plusieurs jours aussi. J'étais dans l'incapacité de parler. Enfin, voilà, le corps s'est retourné contre moi, finalement. Bon, ça m'a permis de faire une vraie introspection et de comprendre que je n'étais pas le problème. Et qu'on était beaucoup à vivre ça et à penser qu'on était le problème. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait que je lance en fait un mouvement, peut-être qu'il prendrait pas. Et finalement, ça a pris une ampleur assez rapide. Voilà, j'ai voulu aussi permettre à d'autres personnes de se rendre compte de ce dont elles étaient victimes et d'avoir les armes pour se battre.
Interception sur France Inter.
2% des femmes déclarent avoir déjà subi des propos sexistes dans le travail.
Attention à toi, ici ceux taper les stagiaires, c'est le sport national.
Elle a ses règles ou quoi?
Si elle me suce, elle passe directrice adjointe.
Qui tend son cul mérite son dû.
Ça y est, un rayon de soleil et toutes les chattes sont à l'air.
Plusieurs milliers de femmes sont violées chaque année sur leur lieu de travail.
Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je ne suis pas, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté.
Tous ces
ces témoignages relayés sur les réseaux sociaux ont fortement secoué le milieu de la publicité ces dernières semaines, au point d'entraîner la démission du président de l'Association des agences de communication, le syndicat patronal du secteur. Laurent Habib, ciblé, dit aujourd'hui regretter des années d'humour et de compliments déplacés.
Allô ?
Oui, bonjour Monsieur Habib, c'est Claire Chaudière à l'appareil, la journaliste de France Inter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous m'aviez appelé.
Si, absolument. Je peux vous rappeler plus tard, je suis en plein meeting. Là.
Bien sûr, c'est parce que je vous avais envoyé un petit texto. Ça marche.
J'ai vu.
Ok.
Tout à l'heure. Je vous rappelle.
Il n'a pas souhaité répondre au micro aux questions de France Inter. Plusieurs agences sont aussi dans la tourmente, des enquêtes internes sont en cours, des mises à pied ont eu lieu. Pour comprendre comment la profession s'empare de ces questions, nous avons donc pris rendez-vous avec ces nouveaux représentants par intérim. Nous voici à Pantin, sur les bords du canal de l'Ourcq, dans les locaux de l'agence de publicité BETC.
Bonjour.
Baptiste, on va te déranger deux secondes.
Pas de problème.
Parce que je voudrais vraiment montrer à Bertie
le petit
bateau.
Yes.
Voilà.
Alors, ça va être un... Je le mets un peu fort, donc je vous préviens pour le micro si vous enregistrez.
Ils sont super ces enfants, ils sont très très mignons.
Merci.
Merci Baptiste.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup
Baptiste.
Je m'appelle Bertie Toledano et je suis présidente de BETC.
Bonjour, j'appelle David Leclabar et je suis président d'Australigad.
Et donc vous êtes tous les deux désormais à la tête de l'ACC qui est le syndicat patronal des agences de publicité, on peut dire ça ?
Exactement.
Oui, bien sûr. On peut y aller, vous voyez, pas de problème. Il y a sans doute des alertes qui n'ont pas fonctionné, il y a sans doute des endroits qui n'ont pas été des endroits de dialogue, il y a sans doute des paroles qui n'ont pas été écoutées ou qui n'ont pas été entendues. Dans la publicité, ce que j'aimerais vous dire quand même dans nos métiers, dans les agences, c'est que la plupart du temps, ça se passe très bien. Je voudrais dire ça parce que moi, j'ai 25 ans de métier maintenant. Et j'ai eu toujours des relations avec les hommes dans ce métier qui étaient des relations formidables. Donc je voudrais pas qu'on fasse un état général des relations hommes-femmes dans nos métiers, etc. Généralement, d'abord, c'est des rapports assez détendus par rapport à...
Vous-même, vous n'avez jamais été soit témoin, soit victime de faits, de sexisme, de harcèlement sexuel ou de rapports plus insidieux peut-être, mais de domination ?
Non. J'ai été témoin de blagues reloues. Voilà, pas uniquement dans l'agence, ce que je veux dire, c'est que chez mes clients, dans mon univers professionnel, oui, il y a eu un moment où les hommes se permettaient plus de blagues reloues.
Cette vague, en tout cas, de témoignages, elle vous pousse à réagir aujourd'hui, de quelle manière ?
Ça commence par, en fait, des guides de lutte contre les harcèlements qu'on peut partager, qui existent, qui sont à disposition des agences, quelles qu'elles soient. Deuxièmement, il y a des formations qui sont ouvertes à différents niveaux pour... tous les salariés, pour les RH, pour les managers. Il y a par ailleurs des outils que nous sommes allés chercher qui permettent de libérer la parole dans l'entreprise. Donc il y a une application qui s'appelle NotMe, qui est en test en ce moment dans plusieurs agences. Quand on veut pas être MeToo, donc on va être NotMe, qui est une application qui permet de libérer la parole à tous les niveaux dans l'entreprise et d'accompagner, en fait, si
en
jamais...
Fait, c'est comme si vous disiez aux gens on se parle... de comment tu me parles. Vous sortez d'une réunion, ça s'est pas bien passé, vous a dit des trucs que vous trouvez pas recevables, qui en fait sont pas vraiment de l'ordre de la réunion, ou sont pas tout de suite, vous pouvez le dire.
C'est-à-dire que les salariés peuvent se servir de cette application et rentrer des témoignages de manière anonyme dans un premier temps, puis éventuellement dévoiler leur identité.
Bah, exactement. Après, le but du jeu, c'est de faire en sorte que tout ça puisse sortir de l'anonymat, parce qu'on ne peut pas avancer dans l'anonymat, en fait. Et donc, ces outils-là sont intéressants parce qu'ils permettent d'accompagner des gens pour aller en justice, aller en RH et qu'on puisse avancer et régler le problème. Le but du jeu, c'est quand même de régler le problème.
Dans le côté, pour moi, plus discutable,
c'est que c'est à l'entreprise de reprendre la main maintenant et de gérer ce problème-là. Faut pas que ça devienne le recours normal, en fait. À chaque fois qu'il y a un problème, le porter sur les médias sociaux, ça peut pas être une solution pérenne.
Nous changeons de secteur professionnel, des bureaux des cadres de la publicité, nous allons dans une boulangerie. Nadia y a travaillé plusieurs mois, elle a subi l'enfer du harcèlement de la part du patron, mais aussi de son fils. Comme près de la moitié des victimes suivies par les syndicats, Nadia est précaire. Elle vient d'Algérie, elle est dans l'attente d'une régularisation. Claire Chaudière a rencontré dans un café de Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, une femme fragilisée physiquement et psychologiquement.
Vous avez amené
Le dossier médical qui pèse en moins peut-être, 3 kilos. Ça.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est les messages échangés avec le patron, la patronne, mes collègues et tout.
Les textos.
Oui. Il faut tout garder.
Ça, c'est un conseil que vous donnez aussi à d'autres femmes.
Oui, parce que j'ai compris que quand on raconte ça, c'est pas facile à dire. Et les gens, ils vont prendre pour une folle. Il faut avoir des preuves. C'est très important. Oui, voilà. Vous voyez, c'est écrit noir sur blanc. Et ça, c'est pour les... Quand il m'a dit de montrer mes cuisses pour vendre les baguettes.
C'est ce qui est écrit dans les textos ?
Oui, c'est ce qui est écrit sur les textos, je vous le montre. Bonjour monsieur, ça va faire 2 ans que je travaillais pour vous et je ne vous ai jamais manqué de respect, mais malgré ça, c'est la 2e fois que vous me dites de montrer mes cuisses pour vendre les dernières traditions aux baguettes. Je vous réponds avec tout le respect que je vous dois, je n'accepte pas d'être traité comme ça. Et il me répond que c'est juste une plaisanterie et qu'il allait arrêter de plaisanter mes choses qu'il n'a jamais fait.
Racontez-moi, vous êtes arrivée en France il y a 3 ans.
Oui, il y a 3 ans. Il y a presque 4 ans maintenant. C'était en juin 2017. J'ai 29 ans. Ce que j'ai subi au travail, attouchement, harcèlement sexuel et harcèlement moral... Et il s'est jeté sur moi à 2 reprises, il a essayé de m'embrasser de force et je lui ai expliqué que c'était interdit. Je lui ai dit formellement que non, et alors il a essayé de m'embrasser quand même.
Là, vous parlez du fils de votre patron ?
Oui, du fils du patron. Quand je lui ai expliqué ma situation, que j'avais besoin de ce travail, pour lui dire que j'ai pas d'autres moyens, je suis obligée de rester pour qu'il me laisse tranquille. Et moi, j'ai cru qu'il allait arrêter. Mais ça continuait toujours, les frottements, que ce soit lui, que ce soit son père, ça continue toujours le harcèlement.
C'est-à-dire les frottements ?
Les frottements, c'est quand il passe derrière moi, derrière la caisse, ou quand je fais la plonge, la vaisselle, et il vient, il se frotte à moi, son sexe contre moi. Je recule pour laisser le passage. Et quand même, il me touche avec sa main. Alors, j'ai essayé de l'éviter pendant tout ce temps. Je me faisais toute petite à ne pas le voir et pour ne pas avoir affaire à lui. J'allais laver la vaisselle des pinces et il est venu, son fils, derrière moi. Il m'a touché la fesse droite violemment en me disant « Allez, dépêche-toi ». Je l'ai poussé. D'ailleurs, heureusement que je n'ai pas fait plus que ça parce qu'il y avait un couteau dans la vaisselle que je lavais. Heureusement que je ne suis pas quelqu'un d'agressif, sinon je serais tournée à autre chose. Et j'ai décidé d'en parler à la patronne. Je lui ai dit « Vous savez, madame, moi je ne veux pas du mal, c'est même pour votre vie, c'est mal ce qu'il fait. Et s'il refait ça, il risque d'avoir des ennuis. Pour essayer de trouver une solution, elle me répond « Il risque rien » et elle rigole.
Là, vous arrivez à un moment où vous n'en pouvez plus. Vous avez l'air d'être au bout, en fait, de ce que vous avez supporté.
Je ne sais pas, j'étais vide de l'intérieur. J'attendais le train pour aller travailler. Je me suis reculée pour aller jusqu'au bout du mur, pour pas être proche de la rame, parce que j'avais des idées noires. J'avais peur qu'à un moment, je ne pourrais plus me contrôler. Je voulais en finir avec toute cette souffrance.
Là, vous êtes en arrêt maladie, Nadia. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ?
Alors, je suis en arrêt maladie, mais pour retourner là-bas, je ne retournerai pas. Malgré que je meure de faim, je ne retournerai pas là-bas parce que je sais que si je retourne là-bas cette fois-ci, c'est que je reviens dans un cercueil. Voilà. Oui.
Et en même temps,
Pour vous, c'est important de parler. C'est ce que vous me disiez quand on s'est eu au téléphone.
Oui, oui, c'est important pour les autres femmes. Parce que moi, si mon ancienne collègue, c'est pas mon ancienne collègue, celle qui a travaillé là-bas avant moi. Elle a subi la même chose. Si elle, elle avait parlé, moi, j'aurais pas à subir ça. Et que moi, j'insiste à parler pour que les autres femmes ne subissent pas ce que moi, j'ai subi aujourd'hui. Il faut pas croire que vous êtes forte, que vous pouvez rester. Il faut partir parce que vous arrivez à un moment où vous ne pouvez pas contrôler votre état. Et si ce n'était pas les aides, le soutien des associations et des médecins et des médicaments que j'ai pris, je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui.
Interception sur France Inter.
Un ciel gris et de grosses gouttes de pluie. Me voilà donc au Havre. J'ai rendez-vous avec Mathilde et Margot, 21 ans toutes les deux, salariées et ex-salariées de McDo, puisque l'une d'elles vient de se faire licencier à la suite d'une grève inédite qui a eu lieu le 24 octobre dernier pour dénoncer des faits de harcèlement sexuel en cuisine.
Le jour de la première grève, en fait, on est tous partis de la gare et on a tous marché dans cette direction. En groupe, on était quasiment toutes les personnes qui devaient travailler sur le temps du midi ce jour-là. Donc le restaurant avait dû fermer ses portes parce qu'il ne pouvait plus accueillir de monde.
Il y a un côté assez inédit à faire grève dans un restaurant de McDo.
Ah bah totalement, parce que comme les responsables nous le répètent systématiquement, c'est la première fois qu'il y avait une grève dans leur franchise. Et ce qui est inédit aussi, c'est que on était tous des jeunes, majorité d'étudiants. C'était une majorité de personnes dans la vingtaine. C'est ça qui était aussi assez étonnant, de voir que, tout jeune, on avait réussi à mettre ça en place pour faire valoir nos droits et nos valeurs et nos principes. C'est pas trop demandé, je pense. On ne demande pas des choses qui sortent de l'ordinaire. On demande juste à ce que nos droits soient respectés.
On va aller se poser un peu plus loin pour peut-être pas être juste devant le magasin, pour pas vous attirer trop d'ennuis. Allez, on va marcher à quelques centaines de mètres. Voilà, on est abrité de l'autre côté des docks, à l'abri de la pluie. Alors, le 24 octobre dernier, vous faites donc cette grève. Contre quoi exactement vous vous mobilisez à ce moment-là ?
Contre le harcèlement sexuel qui avait déjà été reporté à la direction plusieurs fois et contre laquelle ils n'avaient pris aucune mesure. Et également contre du harcèlement moral qui se passait au sein du restaurant.
Moi, par exemple, le manager qui a été mis en cause, régulièrement, lorsqu'il passait derrière moi, il me posait la main sur la hanche. À chacun de ses déplacements autour de moi, il mettait sa main sur ma hanche. Mais c'est pas arrivé qu'une seule fois. Enfin, ça s'est fait pendant plusieurs mois. Mais c'est vrai que sur le moment, on se rend pas compte. On travaille et puis c'est pas quelque chose qu'on relève. C'est plus tard quand on est en vacances, qu'on prend du recul sur notre travail, sur la manière dont ça se passe, qu'on se rend compte que finalement ça avait une incidence sur nous. Sans qu'on en ait conscience. Et c'est comme ça, en fait, que tout, on a commencé aussi à percevoir ce qui était en train de se passer et qu'on a décidé de se mobiliser fortement, quoi.
Alors, après cette grève du 24 octobre, la direction a quand même concédé un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bon, en fait, sur le coup, on trouvait que ça s'était plutôt bien passé le jour J, parce qu'on avait obtenu déjà en premier lieu que la direction, enfin, que le restaurant nous paye nos heures de grève. On a également réussi à avoir une enquête au sein du restaurant afin de savoir s'il y avait ou pas du harcèlement sexuel et moral. Ils nous avaient promis également de mettre en place une cellule d'écoute afin que toutes les personnes qui ont été victimes de quelconque harcèlement puissent parler et puissent être soutenues surtout. Et on s'est vite rendu compte en fait que les choses n'étaient pas si idylliques. C'est-à-dire que l'enquête, elle était censée être menée de façon impartiale et en relation avec la psychologue du travail. Donc la psychologue du travail, encore aujourd'hui, on ne l'a jamais vue, on ne connaît même pas son prénom. En fait, on ne sait pas réellement si elle existe ou pas. De plus, les entretiens se passaient avec les membres de la direction eux-mêmes et ils se permettaient, par exemple, moi, si jamais je leur apportais une réponse qui ne leur plaisait pas, du coup, la directrice d'opération répétait les questions jusqu'à ce que je lui donne la réponse qui l'arrange elle, jusqu'au jour où ils me tendent une convocation du coup pour un entretien préalable au licenciement qui a lieu une semaine après, donc du coup le 16 décembre. Donc j'y suis allée accompagnée de Margot et j'ai reçu 3 jours plus tard ma lettre de licenciement du coup pour faute grave.
Qu'est-ce qu'on vous reproche exactement ?
Déjà, il faut savoir qu'avant la grève, j'avais une très bonne relation avec la direction. Ils ne m'ont jamais reproché quoi que ce soit à propos de mon travail ou à propos de mes relations dans l'entreprise. Et bizarrement, ils me reprochent en fait un like sur les réseaux. Un like, une mention « j'aime » en fait sur les réseaux. Et également des messages qui ont été tenus dans la sphère privée, donc sur Messenger, qui est une application pour avoir des conversations privées, quoi. Et surtout, ce qui est aberrant, c'est que moi, j'ai été licenciée beaucoup plus vite que les harceleurs eux-mêmes ont été licenciés. Il y en a un qui est toujours en cours de licenciement, alors que cela fait maintenant bientôt 3 mois que son harcèlement a été dénoncé.
Donc Mathilde, vous avez été licenciée. Margot, c'est pas votre cas, mais l'ambiance de travail dans le restaurant, vous dites, a changé.
Oui, c'est ça, l'ambiance a changé. C'est un climat assez pesant. Parce que comme Mathilde, j'ai vécu des entretiens informels menés de leur part. C'est-à-dire que j'arrivais pour travailler, je pointais, je me mettais à mon poste et 5 minutes plus tard, on me convoquait pour me demander d'expliquer tous les faits de harcèlement sexuel que j'ai dénoncé, de les mimer. Sachant que le manager que j'accusais était présent dans le restaurant. C'était une enquête à charge. Ils essayaient de retourner le problème en essayant de prouver que c'était nous qui étions à l'origine d'un harcèlement moral au sein du restaurant. Tout comme Mathilde, moi je pense que je suis devenue une de leurs peurs. Ils ont peur que je continue de parler, quoi. Ils mettent en place tout ce qu'ils peuvent pour essayer de nous déstabiliser, de nous pousser à la faute. Je suis déçue parce que dès qu'on commence à vouloir obtenir des droits, dénoncer certaines choses, ben on est directement mis sur le carreau et qu'on essaye de nous faire taire, on nous met la pression. Je suis vraiment déçue de ça. Déçue dans le sens où on essaye toujours de rejeter la faute sur l'employeur, de dire que l'employeur, c'est un monstre, etc. Moi, j'étais pas dans cette optique-là. D'ailleurs, je le suis toujours pas. Je suis pas dans l'optique de dire l'employeur, c'est un monstre. Mais il y a certaines choses qui doivent être dites. Il y a certains faits qui sont là. Et moi, je trouve pas ça normal qu'un employeur s'adresse de la manière dont il m'a parlé à ses employés. Je trouve ça totalement irrespectueux et personne ne devrait s'adresser comme ça à une autre personne, peu importe la relation hiérarchique qu'il y a entre ces personnes-là, quoi.
Selon la direction de McDonald's, le licenciement de Mathilde n'a rien à voir avec les faits de harcèlement dénoncés. L'enseigne lui reproche plusieurs insultes qu'elle aurait proférées à l'encontre de managers. Malgré la libération de la parole, le constat est en tout cas souvent amer. Les victimes se heurtent encore fréquemment à l'inertie de leur employeur et se retrouvent parfois placardisées ou licenciées. Sophie Binet est en charge des questions d'égalité femmes-hommes à la CGT, seul syndicat français à avoir participé aux négociations de la Convention internationale contre les violences sexuelles au travail, adoptée il y a 2 ans par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et qui doit être prochainement transposée en droit français.
Le droit, il est aujourd'hui insuffisant, il faut le changer. Il faut d'abord faire en sorte que l'obligation de prévention qui incombe aux employeurs, elle soit liée à des sanctions, puisqu'il y a une obligation générale de prévention qui n'est absolument pas respectée, puisqu'il y a plus de 80% des entreprises qui n'ont pas de plan de prévention en matière de violences sexistes et sexuelles. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sanctions, tout simplement. Donc la première des choses, c'est de faire en sorte qu'il y ait des sanctions pour tous les employeurs qui ne préviennent pas les violences. La deuxième chose, c'est faire en sorte que pour tous les employeurs qui ne respectent pas le droit et qui licencient ou discriminent des victimes ou des témoins, que les sanctions soient dissuasives. Aujourd'hui, le code du travail est clair, il n'y a pas droit de licencier une femme qui est victime, il n'y a pas le droit de licencier un témoin, il n'y a pas le droit de discriminer une femme victime ou un témoin. Par contre, les sanctions, elles sont très insuffisantes, elles sont prononcées par le Conseil des prud'hommes, donc ça serait intéressant de mettre un plancher minimum de sanctions extrêmement dissuasif pour, comme ça, dissuader d'avoir recours à ça. Parce que systématiquement, dans ce type de cas, on réussit à ce que l'employeur soit condamné, ça, la justice est heureusement claire, mais le problème, c'est que les condamnations sont trop faibles.
Du coup, vous qualifieriez comment le moment dans lequel on est aujourd'hui ?
Bah, on est dans un moment de bascule et d'incertitude, clairement, avec en plus cette crise sanitaire, économique et sociale qui fait que sur le terrain, très concrètement, dans les boîtes, la question de l'égalité professionnelle, d'une façon générale, et alors encore plus des violences, est clairement mise sur le dessous de la table en disant « ça n'est pas une priorité, on est uniquement sur les enjeux économiques et le reste, on l'efface totalement ». Et donc, nous, les remontées qu'on a de terrain, c'est des militants qui nous disent qu'ils ne peuvent plus négocier sur ces sujets avec les employeurs. Déjà que c'était difficile, mais alors là, qu'il y a un refus total des directions de parler de la question des violences sexistes et sexuelles. Donc la première alerte, c'est la crise économique qui a toujours eu un impact plus négatif pour les femmes et qui fait que ces sujets sortent du radar, alors qu'on l'a vu avec le confinement, les violences, elles ont plutôt augmenté. Et puis la deuxième alerte, c'est qu'on voit bien qu'on est dans un moment aussi où les résistances en face s'organisent. Les femmes s'organisent, se mobilisent, mais les résistances aussi s'organisent. On est à un moment de bascule où il faut que les femmes et les salariés restent extrêmement mobilisés sur ces questions-là. Il faut toujours étroitement lier la question sociale avec les questions plus sociétales comme l'égalité femmes-hommes ou la lutte contre le racisme. Et les dynamiques s'alimentent et doivent être pensées ensemble.
Même si la loi ne règle pas tout, elle donne une orientation plus claire pour le monde du travail. Certaines entreprises privées sont désormais obligées de suivre des formations pour toucher des subventions publiques. C'est ce qu'on appelle la conditionnalité des aides. Pour les associations, c'est une avancée majeure, même si c'est encore l'exception. Claire Chaudière a assisté à ces séances de formation en visio en ce moment, dispensée par une association qui, avant tout, est là pour accompagner les victimes.
Je suis dans une petite rue pas très passante dans le 14e arrondissement à Paris. Et là, je vois de la lumière, donc ce doit être le local de l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Une salle, une formation à destination d'agents de la fonction publique.
Et des attouchements sur les seins, les fesses, le sexe et les cuisses. Quand on touche ces cinq zones-là, on n'est plus sur du harcèlement sexuel, on est sur une agression sexuelle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ?
Je ne comprends pas.
Là, en fait, ce qui va distinguer l'agression sexuelle d'une agression physique, ça va être les parties du corps qu'on va toucher. L'agression sexuelle, ça va être un attouchement sur des zones à caractère sexuel. Est-ce que c'est clair ? Sachant que dans l'agression sexuelle, il y a un autre volet. Donc, il y a le fait de toucher ces cinq zones, et il y a aussi le fait de toucher n'importe quelle autre partie du corps avec son sexe. C'est ce qu'on appelle les frotteurs du métro, par exemple. Ce sont des agresseurs sexuels. Et là, même s'ils touchent le genou, le dos, l'arrière du bras, ce que vous voulez, c'est une agression sexuelle, puisqu'ils touchent avec leur sexe. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, cette distinction ?
Du coup, on se met comment ?
Bah,
ici, peut-être, ouais, près de la fenêtre. Hop.
Marilyn Baldeck, vous êtes la déléguée générale de l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. On sait qu'il y a énormément de freins, de résistance en entreprise sur cette question des violences sexistes et sexuelles. Il y a aussi des choses qui bougent.
On a vu se multiplier à l'association, mais c'est vrai chez d'autres, hein, des demandes de formation. Donc ça nous est déjà arrivé, par exemple, qu'un employeur nous demande de former l'intégralité des 2000 salariés par groupe de 15, une journée entière dans les locaux de l'entreprise. On a déjà fait ça. Donc ça, c'est des programmes quand même ambitieux où il y a une vraie mobilisation de l'employeur qu'on voyait pas du tout avant. Donc oui, on peut dire que les choses bougent. Après, je voudrais pas non plus faire croire que tout va bien, parce que ce dont il faut se méfier, c'est des employeurs qui savent très bien respecter leurs obligations sur le plan formel, c'est-à-dire qu'ils vont bien cocher toutes les cases, donc prévention, mais à minima. Réaction, oui, mais c'est quand même pas génial pour la salariée sur le long terme. Sanction, oui, mais bon, juste un blâme. En fait, on sent quand même que ce processus-là de la responsabilisation des employeurs, il n'est pas du tout abouti. On est en chemin vers ça, mais on voit aussi poindre le danger d'employeurs en fait qui font ça, comme on mettra en place de la sécurité incendie. Les extincteurs, ils sont bien là. Mais ça ne veut pas forcément dire que le jour où il y a le feu, on sait vraiment s'en servir comme il faut, quoi.
Vous me disiez au téléphone il y a quelques jours, dans les formations qu'on anime, il se passe parfois des choses incroyables.
Il y a de tout, en fait, il y a de toutes les réactions possibles dans ces formations. Il y a une très forte adhésion. Et donc ça, on s'en rend compte en ce moment. On n'a jamais reçu autant de mails de stagiaires venant nous dire que ça les avait bouleversés, que ça a été un moment important. Voilà, après, je ne veux pas non plus dresser un tableau parfait. On a aussi, et c'est normal, et ce serait presque... ça voudrait dire que notre message n'est pas suffisamment radical si on sort de ces formations et que finalement, tout le monde est content. Enfin, je veux dire, clairement, on est là pour perturber des habitus. On est là pour leur dire qu'ils doivent abandonner des privilèges. On part de très loin, faut dire. On arrive parfois aussi dans des collectifs de travail où la grivoiserie, les propos graveleux sont considérés comme faisant partie de la culture d'entreprise et même de ce qui améliore leur productivité. On nous dit ça. Le droit n'est pas un levier suffisant, en fait. Il ne pourra pas être appliqué si on n'arrive pas à faire réfléchir les gens sur le fait que c'est pas parce qu'on le fait depuis toujours que c'est normal. Et donc, une fois qu'on a dit ça, évidemment, il y en a toujours un ou deux pour dire, en fait, ce que vous voulez, c'est aseptiser les relations de travail, quoi.
Vous qualifieriez comment le moment dans lequel on est aujourd'hui ?
On ne peut pas dire autre chose que, en fait, il se passe quelque chose. Mais pour l'instant, moi, je demande des vérifications, en fait, et surtout des traductions concrètes de cet élan. Il ne suffit pas qu'une société civile se mobilise et que des médias le relaient, en fait. Hein. Il faut aussi que les pouvoirs publics s'en emparent. Alors, je ne veux pas dire non plus qu'ils s'en sont pas du tout emparés, mais dans des proportions extraordinairement insuffisantes par rapport aux attentes et aux besoins qui se sont exprimés, de prise en charge des victimes, de défense des victimes, de réforme de l'institution judiciaire, en fait, sur ce terrain-là, d'éducation. On peut dire qu'on est quand même très, très loin du compte. Donc, il y a ça. Et puis, il y a un autre énorme décalage entre, justement, l'émergence d'exigences citoyennes sur la question des violences sexuelles et la composition actuelle du gouvernement. En ce moment, on est même mis en difficulté par rapport à ça. C'est-à-dire que régulièrement, en formation, quand on donne des exemples d'abus d'autorité, voilà, on travaille des études de cas avec des salariés, dans lesquels, en fait, il y a un salarié, un homme, qui est en situation de pouvoir, qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions pour obtenir des actes sexuels d'une salariée qui lui est subordonnée, qui ne désire pas ses actes, mais qui est tenue par la contrainte économique. Et en fait, il y a toujours quelqu'un en formation pour nous dire, comme Darmanin, quoi. On a besoin d'exemplarité. En fait, sans cette exemplarité, on aura beau en fait faire de la sensibilisation et de la formation, on sera toujours mis en difficulté par des stagiaires qui nous diront vous nous demandez de faire ce que le gouvernement ne fait pas.
Un chantier qui reste donc largement inachevé, même si la peur commence bel et bien à changer de camp, comme veut le croire Audrey Petit, notre publicitaire engagée, victime de harcèlement sexuel il y a près de 10 ans. Nous la retrouvons dans sa campagne bourguignonne, près du Creusot, sur un chemin qui serpente au milieu des cours d'eau.
Moi, si à 25 ans, j'avais eu la gouaille que j'ai aujourd'hui, l'aplomb que j'ai aujourd'hui... J'aurais peut-être pas vécu les choses de la même manière. Après, est-ce que les choses bougent vraiment ? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les faits, quelques têtes sont tombées. Mais je pense qu'il y a encore des gens qui sont très à l'abri. Et puis on sait aussi, par ailleurs, que les gens sont parfois déplacés, hein, n'est-ce pas ? Parfois, on les envoie au vert, se mettre au vert, on leur donne un peu de coaching. On n'est pas sur des grosses sanctions, hein, pas du tout. Dans mon secteur, on est censé être à l'avant-garde des sujets de société. Et pour autant, on est hyper extrêmement conservateur sur ces sujets-là. Il y a toute une génération qui... pas tous, hein, je mets évidemment pas tous dans le même bateau, mais il y a une génération où culturellement, ça fera du bien quand elle partira à la retraite. C'est sûr. C'est sûr. Parce que c'est une génération qui est encore dans un schéma où les hommes sont en pouvoir et les femmes sont là pour faire des photocopies et passer des slides et mettre des jupes pour aller chez le client, quoi. Donc voilà, il y aura besoin d'un renouvellement générationnel, je pense, pour vraiment arriver à une, on va dire, une réinvention du métier, quoi. Et en fait, quand je vous parle comme ça, j'ai l'impression de faire une grande chose, c'est-à-dire quelque chose qui compte pour mon industrie, mais c'est ce qui m'est arrivé qui fait qu'aujourd'hui, je suis une femme engagée. Voilà, je suis une féministe et je suis une femme engagée, et d'autant plus dans mon entreprise, c'est sûr.
Au boulot, quand les victimes sortent du silence, c'était un reportage de Claire Chaudière. Réalisation Audrey Ripouille, assistée de Thomas Lehété, mixage Nicolas Régis. Cette émission est déjà disponible à la réécoute sur franceinter.fr. Après le journal de 10h, le remède à la mélancolie d'Eva Bester, elle reçoit Joyce Ormand pour son livre « À la folie ».